Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Une douche froide, c'est ce que tout le monde recherche en ces jours de canicule. C'est ce que Jésus inflige ce matin à ses disciples pour calmer leur ambition. Saint Luc situe ce passage en un moment crucial du récit. Le Christ vient de multiplier les pains, les foules sont subjuguées et reconnaissent enfin qu'il est un prophète, certains veulent même le faire roi. Les disciples confirmés s'enthousiasment d'avoir misé sur le bon cheval, la sauce est en train de prendre, si je puis dire. Or, c'est le moment que Jésus choisit pour dévoiler son plan. Souffrir beaucoup, être tué, puis ressuscité. Il lance ensuite ce qui semble être la pire des opérations de marketing, celle qui nous assure à jamais le plus maigre des recrutements. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Mais tout cela commence par une question. Pour vous, qui suis-je? Que veut-il savoir au juste? Serait-il soucieux de son image? Est-ce vraiment l'opinion des autres qui l'intéresse? S'agit-il de donner la bonne définition théologique? N'est-ce pas plutôt la relation qu'il entretient avec eux qui l'interroge? Et vous, que répondriez-vous? Qui est Jésus pour vous? Le Messie, Fils de Dieu, Dieu lui-même? Mais qu'est-ce à dire? Quelle relation avez-vous avec lui? Et allons plus loin, qui est Dieu pour vous? Adam dirait « Tu es le souffle qui me vivifie et que j'ai négligé en Éden. » Abraham dirait « Tu es mon bouclier, ma récompense trop grande. » Moïse, tu es le mystère de mon « Je suis », celui qui brûle sans consumer au cœur de la création. David dirait « Tu es mon roc, ma forteresse. Ma force et mon chant, c'est toi, Seigneur, tu es pour moi le salut. » Et Jérémie, tu es la source d'eau vive que j'abandonne pour me construire des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Comprenez que derrière chacune de ces expressions, il y a une expérience, une histoire, un récit. Ce n'est pas une définition, mais une confession que Jésus attend, une relation de confiance qui expose quelque chose de nous-mêmes. D'ailleurs, chez Matthieu, Jésus va répondre à Pierre confessant « Tu es le Messie de Dieu » et « Toi, tu es Pierre », c'est-à-dire « Tu es roc, toi aussi, donc toi et moi, nous sommes unis. » Paul enfin dira plus loin que ira plus loin que tous en disant « Tu es ma vie. Pour moi, vivre, c'est toi, le Christ. Tu es notre unité. Nous sommes tous un en toi. » Mais entre Paul et tous les autres, il y a une différence. Paul arrive après la résurrection et donc après la croix. C'est la rencontre avec le ressuscité qui sera pour lui la douche froide sur le chemin de Damas. À sa question « Qui es-tu ?», le Seigneur du ciel répondra « Je suis Jésus que tu persécutes. Tu es Jésus que je persécute. Tu es Étienne, lapidé devant mes yeux. Tu es ce misérable chrétien que je pourchasse au nom même de Dieu. » Les disciples avaient bien entendu Jésus dire « C'est à moi que vous l'avez fait, à travers ce malade que vous soignez, cet étranger que vous accueillez. » Mais eux, comment pouvaient-ils comprendre cela? Paul, lui, vient une fois que le cœur de Jésus a été transpercé. Maintenant, tous, nous pouvons regarder vers lui comme l'avait annoncé Zacharie, pour voir la miséricorde divine jaillir de sa source. Élevé de terre, le Christ attire maintenant tout à lui, tout en lui, selon sa propre annonce. Dès lors, Paul peut déclarer aux baptisés « Vous appartenez au Christ ». Tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus, ni homme ni femme. Paul n'est pas un adepte de la théorie du gender. S'il a des formulations déroutantes pour exprimer le mystère de Jésus et de notre union en lui, ce n'est pas l'exaltation d'un ambitieux qui s'exprime, mais bien l'expérience du choc de sa rencontre sur le chemin de Damas. Ainsi, ce n'est plus Jésus seulement qui est mystérieux, mais chacun de nous. Je m'explique. Jésus ne fait pas nombre avec chacun de nous. Il est Dieu, c'est-à-dire le tout autre, au-delà de toute différence. La différence de Dieu, dit Fénelon, c'est de ne pas en avoir. Chaque créature a sa catégorie. Le chêne n'est pas un poireau, la mouche n'est pas un taureau. Dieu, lui, s'il m'est totalement incompréhensible, je peux au moins dire qu'il n'est pas enfermable dans une catégorie distincte. Il est tout autre parce que plénitude de tout ce qui existe. Jésus, lui aussi, est ainsi. Pour vous, qui suis-je? Tu es, Seigneur, celui qui vit en moi. Tu es celui qui sent et respire en moi. Tu es ma joie et ma force, mon courage et ma paix. Tu es mon tréfonds et ma peau. Tu es la lumière de mes yeux et le salut de ma face. Tu es mon souffle intime et mon milieu vital. Devant et derrière, tu nous en sers. C'est toi qui nous rassemble et fais notre unité. Tu es la tête du corps et nous sommes tes membres, et donc membres ainsi les uns des autres. Quelles conséquences tirer de cela? Le suivre n'est pas une option. Jésus nous a acquis. Comment un membre du corps éviterait-il de suivre la tête? Nous lui appartenons. Vivre pleinement, c'est donc renoncer à n'appartenir qu'à soi. Vivre à plein poumon, c'est renoncer à ce moi qui n'est pas en relation avec Jésus. Renier ce personnage qui se croit autonome, autosuffisant, et qui en fait n'intéresse pas grand monde. Renoncer à vivre en surface pour plonger au-dedans en présence de celui qui secrètement nous demande « Pour toi, qui suis-je ?»